Donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection, en échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché, et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas. Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie ? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Prions notre Père, merci de placer encore devant nous ce texte, et il n'y a pas de hasard. C'est ta parole, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour corriger. Et merci de nous accorder la grâce de recevoir cette parole telle qu'elle est dans la vérité que tu nous enseignes ce matin et ce rappel que tu es avec nous et aussi que ta houlette et ton bâton nous rassurent et que tu as autorité sur nous, sur nos vies, au travers des circonstances qui sont les nôtres. Et que nous pouvons avoir confiance que ton amour ne change pas, que tu es avec nous et que nous pouvons traverser, courir notre vie, notre marche en toi, sachant que tu es avec nous et que rien ne t'échappe. Et nous t'en donnons toute la gloire ce matin au nom de Jésus. Amen. Alors, je vous ai déjà mentionné que le passage ici, à partir du verset 4 jusqu'au verset 11, n'est-ce pas ? Pourrait se traduire à la place du mot qui se retrouve souvent, châtier, châtiment, par le mot discipline ou discipliner. Et donc ici, à partir du verset 4, il est question de la discipline de Dieu dans nos vies. Alors juste un petit rappel rapide, parce que ça fait plusieurs fois que je réintroduis le sujet, mais rappelons-nous que le but de l'Épître aux Hébreux, c'est d'exhorter les auditeurs, les lecteurs, de les avertir, de les enseigner. Pourquoi ? Parce qu'ils vivent des choses difficiles. Ils ont accepté Jésus, ils sont sortis du judaïsme, la synagogue, ils sont rentrés dans l'Église, et en fait, les croyants véritables, juifs convertis, les messianiques, sont persécutés. Ils sont persécutés dans leur vie sociale, dans leur vie économique, dans leur vie familiale, exactement ce qu'on lit aujourd'hui, qui nous est transmis notamment par le fil rouge, lorsqu'on a des nouvelles des chrétiens persécutés, il y a toute une pression, voire oppression autour d'eux. Et donc ils sont découragés, ou ils pourraient se décourager, ou ils pourraient tout simplement dire « ben moi je baisse les bras, le combat est trop dur ». La vie chrétienne est trop difficile et se décourager, être las, ralentir et voir s'arrêter et puis devenir paralysé. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux leur dit, mais non, courez. Courez avec persévérance, avec courage, malgré vos souffrances, vos difficultés, vos circonstances adverses, en ayant fixé les yeux sur Jésus. Alors Jésus est le modèle parfait d'endurance, de souffrance, qui en vue de la joie qui lui était réservée a souffert la croix. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux introduit cette notion de course et puis de course qui est, comme j'ai déjà dit, plutôt une course marathon, n'est-ce pas, qu'un sprint, donc quelque chose qui appelle l'endurance, parce qu'il regarde à ceux du chapitre 11, les héros de la foi, qui sont mentionnés, et qui finissent par une liste de gens qui ont même souffert jusqu'au point d'être morts martyrs. Alors l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit, ben voilà, vous êtes découragés, mais sachez qu'il y a ceux qui sont morts martyrs, et puis vous n'avez pas encore souffert comme Jésus. Vous n'avez pas encore souffert la croix comme Jésus a souffert. Vous n'avez pas enduré les souffrances de Jésus. Oui, vous souffrez, vous pourriez être découragé, mais ce n'est rien en fonction du modèle parfait que je vous présente ici, qui est Jésus. Mais, vous savez, on peut savoir, mais ensuite l'appliquer dans nos vies, ce n'est pas toujours facile. D'autant plus qu'il y avait, parmi les chrétiens, n'est-ce pas, ceux qui venaient à l'église et qui hésitaient encore de passer de la synagogue à l'église de façon entière par une décision ferme, dit « oui, nous nous identifions à vous les chrétiens, nous identifions au Messie, Jésus-Christ est vraiment le Fils de Dieu ». Et en fait, prendre cette position, c'était de subir la persécution que ces croyants étaient en train de subir. Donc, ces gens-là hésitants voyaient d'autres souffrir. Ils se disaient, est-ce que vraiment je suis prêt à souffrir? Alors, certains, parce qu'hésitants et trop hésitants et trop indécis dans le temps, s'étaient retirés et finalement avaient découragé non seulement les hésitants qui, eux, voulaient peut-être persévérer jusqu'à la conversion ou les vrais croyants, et s'étaient retirés ayant connu la vérité, ayant été exposé à la vérité, c'est ce qu'on appelle dans la Bible les apostates. Ceux qui ont connu la vérité l'ont abandonné parce qu'ils ne l'ont pas accepté entièrement. Et donc, tous ces auditeurs, ces lecteurs avaient besoin de savoir que oui, quelque part, il y a un prix à payer et il ne faut pas s'étonner dans nos vies d'avoir de l'adversité. J'ose pas vous demander ce que vous vivez ou ce que vous avez vécu, et peut-être même ce que vous allez vivre dans quelques temps. La plupart d'entre nous, nous comprenons ce langage que celui qui voudra vivre pieusement en Jésus-Christ sera persécuté. Et quelque part, dans la vie chrétienne, il y a une souffrance, une endurance, une persévérance qui nous est demandée. Et ces héros de la foi sont là pour nous encourager comme des modèles à suivre. Eux-mêmes ont persévéré, eux-mêmes ont marché par la foi et ont persévéré jusqu'au bout. Persévéré jusqu'au bout, malgré les difficultés. Alors, nous sommes en fait rendus du verset 4 au verset 11 qui parle du châtiment de Dieu. Alors le châtiment de Dieu, qui, pourquoi, comment, quel résultat? Et nous avons regardé en fait que le mot clé pour nous les enfants de Dieu, ça se trouve au verset 7, il est écrit « supporter le châtiment ». Oui, vous êtes dans une course, les yeux fixés sur Jésus, rejetant le péché, ayant les yeux fixés sur celui qui est le modèle parfait, mais dans la discipline du Seigneur qui permet dans vos vies les épreuves, certaines souffrances, la Bible dit « supportez le châtiment ». C'est comme des fils que Dieu vous traite, car qu'est le fils comme père ne châtie pas. Donc c'est une grâce de discerner que Dieu exerce une discipline dans ma vie, et c'est une grâce de la part du Seigneur de l'accepter, et c'est une grâce de laisser agir la discipline du Seigneur dans nos vies pour qu'elle aboutisse aux fruits paisibles de justice. En fait, le verbe ici est à l'impératif, supporter la discipline, supporter le châtiment. Qui a envie d'être discipliné? Je me souviens, certains de mes enfants, comme certains le savent, nous avons 6 enfants, 5 garçons et une fille. Et parfois, ça bougeait à la maison, n'est-ce pas? Et on a dû exercer la discipline, qui était une marque de notre part d'un vrai amour et d'un désir d'éduquer nos enfants dans les voies du Seigneur. Mais vous savez, certains n'aimaient pas être corrigés. Et je me souviens d'un de mes enfants qui m'a joué un tour, je ne sais pas si vous avez raconté ça, certains. À un moment donné, on avait quand même quelque chose de consistant pour taper sur les fesses, jamais sur le visage, sur les fesses. Et un jour, comme il était toujours assez, créatif et plein d'initiatives, alors qu'il était châtié par son papa, il commençait à rire. Il dit, tiens, il rit. Pourtant, je peux vous dire que le but, c'était de pincer les fesses. Je n'ai pas le temps de vous expliquer toute l'éducation des enfants qu'on a exercée et qu'on croit être biblique. Et il riait, il me regardait comme ça, je disais quelque chose qui ne va pas. Jusqu'à ce que je découvre qu'il avait mis 3 sous-vêtements et 2 jeans. Voyez-vous, on n'accepte pas facilement la correction. Je peux vous dire qu'après, il a accepté malgré tout, parce qu'il le méritait. Mais bon, c'était une façon de... Écoute, là... Mais on a du mal à accepter la réprimande, n'est-ce pas? On a du mal à accepter la correction. On a déjà vu ensemble que la correction, en fait, a pour but de punir. Dieu nous punit. Dieu nous châtie parce que nous en avons besoin. Un autre but du châtiment, c'est de prévenir. Parce que peut-être que si nous n'avions pas été corrigés par le Seigneur, nous serions allés beaucoup plus loin, ou dans notre péché, ou dans notre désobéissance, et Dieu ainsi nous rattrape. La prévention fait largement partie de l'éducation des enfants, j'espère que vous en êtes conscients. Et puis il y a aussi le châtiment qui instruit. L'exemple qu'on avait choisi, c'était Job, n'est-ce pas, qui a découvert Dieu dans une autre dimension, après cette grande épreuve qu'il a subie, permise par Dieu. Une discipline du Seigneur. Qui châtie, rappelons ça, c'est Dieu. Mais Dieu est souverain, Dieu est tout-puissant. Qui sommes-nous pour pouvoir résister à Dieu? C'est dangereux de résister à Dieu. Mais si nous comprenons que Dieu nous discipline parce qu'il est un Père, et un Père plein d'amour, je crois que nous devons comprendre que si Dieu nous châtie, c'est parce qu'il nous aime. C'est ce que dit le texte ici. C'est comme des fils que Dieu vous traite, car le fils qu'un Père ne châtie pas. Ainsi, c'est un Dieu qui nous châtie, qui permet une discipline dans notre vie à s'exercer sur notre conduite et nos vies matérielles, spirituelles, même affectives, notre volonté, nos émotions, notre intelligence, mais c'est un Père qui agit toujours avec amour. C'est bon de savoir ça, parce que moi, en tant que Père, j'ai fait des gaffes parfois. Je n'ai pas su toujours corriger, dans certaines circonstances, mes enfants de la façon parfaite. Malgré un bon désir, n'est-ce pas, de le faire correctement. Mais Dieu, lui, dans son équilibre parfait, vu qu'il est parfait, lorsqu'il nous corrige, il sait exactement ce qui convient. Alors reconnaissons que l'exercice de la discipline que Dieu fait sur nous est pour notre bien et que c'est toujours dû à une main d'amour, même si elle est très ferme. Parce que nous sommes ses enfants et donc il a le droit de nous châtier. Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, mais Dieu a le droit d'avoir un regard sur nous. Et pourquoi nous châtie-t-il? Parce que nous sommes parfois des enfants rebelles ou des enfants orgueilleux ou des enfants qui exercent leur propre volonté, qui veulent suivre leur propre chemin. Et la Bible dit, telle voie paraît droite à un homme, et son issue, c'est la voie de la mort. Nous voulons parfois désobéir à Dieu, et même nous rejetons sa parole et l'enseignement de la parole, parce que nous voulons suivre nos propres voies. Telle voie paraît droite à un homme, et son issue, c'est la voie de la mort. Et Dieu nous redresse, et c'est ce que Dieu a fait multe fois dans la vie d'Israël, qui se rebellait. Et parfois, Dieu suscitait des ennemis à Israël, notamment les Philistins, parce qu'ils s'éloignaient de Dieu. Et Dieu était obligé de les faire revenir vers lui, parce que ce que Dieu désire, c'est d'avoir une relation avec ses enfants, que ses enfants lui soient obéissants et puissent jouir de sa présence. Parce que un jour, dans la présence de Christ, vaut mieux que mille jours ailleurs, et c'est de loin le meilleur pour nous, ses enfants. Alors Dieu, parfois, peut exercer une discipline de façon sévère. Et ici, il est écrit qu'il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Vous aimez ça, vous, ce langage? Vous êtes prêts à dire, oui, vas-y, papa du ciel, je te présente... Bon, on ne peut pas présenter la joue ou autre chose, mais... Oui, Dieu peut être sévère, et ici le langage est sévère, parce qu'il est question d'une verge, et on a vu que ce mot, n'est-ce pas, est synonyme d'une correction ferme et sévère, telle qu'utilisaient d'ailleurs les Juifs parfois dans leur vie. Alors Dieu nous châtie, et maintenant nous allons répondre à 2 questions. Comment réagir face au châtiment? Comment est-ce que les croyants devraient-ils réagir face au châtiment? Et quels sont les fruits du châtiment que Dieu veut apporter dans nos vies? Alors je m'empresse de dire que nous n'avons pas à nous juger les uns les autres dans les différentes épreuves que nous traversons. Que Dieu nous en garde. Et deuxièmement, Dieu n'est plus un juge pour nous. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc je vous demande de ne pas vous placer sous un joug qui ne serait pas la main paternelle de Dieu, mais de comprendre que Dieu a le droit d'exercer une discipline dans nos vies et il permet des épreuves. Mais Dieu ne nous juge plus. Nous sommes passés de la mort à la vie. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais Dieu se place comme un père dont la pédagogie nous est nécessaire pour grandir et mûrir. Vous savez, si vous avez dit un jour au Seigneur, comme il est écrit d'ailleurs dans les Proverbes, c'est Dieu qui parle à Salomon, « Mon fils, donne-moi ton cœur. » Eh bien, si vous avez donné votre vie au Seigneur, attendez-vous à ce qu'il la dirige. Et parfois, il faut dire que nous trouvons ça un peu difficile, notre vie sur terre, n'est-ce pas? Nous avons tous des épreuves et des choses à réaliser. Alors, allons-y, parce que je voudrais quand même terminer ce matin. Tout ça pour dire que comment réagissons-nous? Nous avons plusieurs possibilités. Alors, nous allons regarder le texte parce que le texte répond à cette question. Premièrement, nous n'oublions pas l'enseignement de la parole de Dieu, qui dit notamment dans le Proverbe 3, versets 11 et 12, « Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments, car l'Éternel châtie celui qu'il aime comme un père l'enfant qui chérit. » Et c'est ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux cite au verset 6. Il prend un verset de l'Ancien Testament pour expliquer, à partir du verset 5, que nous sommes ainsi sous l'exercice de la discipline du Seigneur. Alors, pour moi, ça me donne un principe ici. C'est que face à l'exercice que Dieu fait sur moi, j'ai une réponse à la parole. Et je dois chercher dans la parole la réponse de Dieu. Ici, voilà, le croyant, l'hébreu qui souffre pourrait se poser la question, pourquoi est-ce que Dieu permet une telle souffrance dans ma vie? Eh bien voilà, mon fils, ne méprise pas la discipline du Seigneur dans ta vie. Ça, c'est une réponse qui vient de la parole de Dieu. Nous pouvons accepter la correction de Dieu parce que rien de ce qui nous arrive n'est un hasard. Il n'y a pas de hasard dans la vie chrétienne. Peut-être vous allez me dire, mais non, Dieu se trompe parfois. Non, non. On pense ça peut-être inconsciemment, mais Dieu ne se trompe jamais. Il n'y a pas de hasard dans la vie chrétienne. Vous le croyez cela? Moi j'ai du mal parfois à le vivre ça. J'ai envie que les situations changent autour de moi, etc. Et j'ai envie de dire, Seigneur, mais écoute, voilà, trace un chemin plus tranquille. Mais le Seigneur nous fait passer les obstacles et parfois même il attend ce que dans sa grâce on voit Dieu percer le Mont Blanc, n'est-ce pas, pour créer un tunnel pour nous faire traverser la montagne et aller de l'autre côté. C'est ce que nous dit Jacques. Alors, tournez dans l'épître de Jacques, à partir du verset 2, Jacques dit ceci, et encore il s'adresse, Jacques, à des Juifs qui sont en persécution d'ailleurs. « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. » Vous êtes un impatient, ben Dieu va vous envoyer une épreuve, l'épreuve de votre foi. Les épreuves sont diverses, mais l'épreuve ici dans le grec, c'est plutôt le test de la foi. C'est deux mots différents. Et il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir à rien. Vous savez, vous avez déjà vu un homme dresser un cheval sauvage. Il prend du temps et à un moment donné, le cheval, eh bien, il doit se soumettre et on met un mort dans sa bouche afin qu'il puisse apprendre à se laisser diriger. Mais c'est un peu comme ça que Dieu agit dans nos vies, parce qu'on est des animaux, un peu sauvages parfois devant Dieu, n'est-ce pas? Alors le mort de Dieu nous redresse, mais on est impatient, n'est-ce pas? On est impatient. Donc, ne pas oublier qu'il y a une réponse par rapport à ce qui nous arrive dans la parole de Dieu, et la première réponse que Dieu permet sa discipline dans nos vies. La deuxième réponse, c'est ne pas mépriser le châtiment. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Vous allez me dire, mais comment on pourrait mépriser le châtiment du Seigneur? Mais quelque part, la façon avec laquelle Dieu agit dans nos vies, nous pouvons dire non, Seigneur. et ne pas lui donner tout le droit d'agir comme il l'entend, et en quelque sorte mépriser ou même rejeter la parole de Dieu. La Bible dit, Proverbe 10-17, « Celui qui se souvient de la correction prend le chemin de la vie, mais celui qui oublie la réprimande s'égare. » Vous savez ce qu'on fait? J'ai été un peu cavalier dans ma vie, à un moment donné, et j'aimais beaucoup cela. Quand un cheval refuse de passer l'obstacle, qu'est-ce qu'on fait? On le ramène toujours. Parce qu'un cheval est assez têtu que si une fois il rate, il ne veut pas passer un obstacle, il peut ne plus être jamais capable de passer l'obstacle. Et parfois Dieu, excusez-moi, agit exactement comme ça. Il nous ramène au point A. On voudrait déjà être au point X, Y, Z dans nos vies. Ça vous arrive jamais de penser comme ça? Puis Dieu vous ramène au point A parce que c'est exactement là où il veut qu'on apprenne. Et c'est difficile de revenir au point A parce que nous, on est pressé d'aller au point X, Y, Z. C'est pas vrai, les amis? J'espère que vous êtes comme moi parce que, n'est-ce pas, que je ne suis pas le seul à vivre ça. La pauvreté et la honte sont le partage de celui qui rejette la correction, mais celui qui a égard à la réprimande est honoré. La réprimande a un but particulier dans nos vies. Mais est-ce qu'on est attentif? Est-ce qu'on discerne la main de Dieu dans nos vies? Ou est-ce qu'on le méprise? L'insensé dédaigne l'instruction de son père, mais celui qui a égard à la réprimande agit avec prudence. Certainement, on a les instructions de Dieu dans ce livre, mais parfois Dieu agit dans des circonstances adverses, matérielles ou autres, pour nous montrer que quelque part, il s'occupe de nous. C'est intéressant, ça. Ça nous rassure, parce que s'il s'occupe de moi, c'est que je suis toujours son enfant, et je suis son enfant. Et on croit que quand on est un enfant de Dieu, on l'est pour toujours. Et donc, ce Père céleste avec qui je vais vivre l'éternité a le droit sur mon parcours sur terre d'avoir droit sur moi. Encore un verset dans les Proverbes, celui qui rejette la correction méprise son âme, mais celui qui écoute la réprimande acquiert l'intelligence. Et on voit que des enfants qui méprisent le châtiment de leurs parents s'endurcissent et peuvent devenir malheureusement des gens rebelles et terriblement rebelles à l'autorité. Vous savez, la rébellion contre l'autorité, c'est naturel. Et nous devons veiller à apprendre à nous soumettre à l'autorité de Dieu et même aux autorités qui nous entourent. En fait, nous ne pourrions, en ne nous soumettant pas, tout simplement ne pas bénéficier, ne pas tirer profit de ce que Dieu désire dans nos vies. Ce n'est pas un hasard là où vous vous trouvez. Ce n'est pas un hasard. Et nous avons besoin de nous fixer, non pas sur nos expériences ou nos circonstances, mais sur Dieu lui-même. Est-ce que nous voyons Dieu dans nos vies et même nos adversités? Alors on peut réagir de façon différente, et j'ai trouvé ça dans un commentaire, j'ai trouvé ça pertinent. On peut devenir insensible à Dieu et à sa parole. C'est grave cela. On peut aussi devenir plaintif, murmurer. Vous avez jamais entendu des gens qui se plaignent, qui murmurent? Si vous lisez l'Ancien Testament, les enfants d'Israël avaient une spécialité dans leur vie. Les murmures. Et ils se plaignaient. En fait, à un moment donné, Moïse plaide, il dit, tu entends ces enfants, ils sont contre moi. Non, ils murmurent pas contre toi, ils murmurent en fait contre moi. Se rebeller quelque part dans nos vies, si nous sommes honnêtes, c'est se rebeller contre Dieu. Alors, il y a ceux qui boudent aussi, enfin, ça c'est moi qui ajoute ça, hein. Ceux qui boudent, ils sont pas contents, ils boudent, alors ils se cachent. Moi, je les appelle les bouddhistes, hein. Bon, c'est un jeu de mots. Et puis, il y a ceux qui questionnent Dieu, on est toujours en question, pourquoi, un peu comme Job, mais enfin, Dieu lui a répondu à Job, quand même. Mais des fois, le pourquoi, c'est plus que pourquoi. Job avait un esprit de vérité pour comprendre ce qui lui arrivait. Mais parfois, on questionne Dieu, on remet Dieu en cause. Ça, c'est grave dans nos vies. Et puis, on peut aussi devenir insouciant. Oh, finalement, hein, la vie, je prends ma vie en main, je dirige ma vie comme je l'entends. Et c'est dangereux, cela, n'est-ce pas? Parce qu'il vaut mieux que Dieu soit au règne et soit derrière le volant de nos vies que nous prendre le volant de nos vies. Et puis, troisièmement, la Bible dit non seulement qu'on doit être attentif à ce que dit la Bible à ce sujet, qu'on ne doit pas mépriser le châtiment, et puis on ne doit pas perdre courage. Parce qu'effectivement, on pourrait devenir accablé par les épreuves, dire oh, finalement, Seigneur, c'est trop dur. Donc ne pas peut-être être insensible, comme j'ai marqué, plaintif, en train de murmurer, vivre dans le mécontentement, remettre en question Dieu, être insouciant, boudé, être en colère, tout ce que vous voulez. Mais on peut tout simplement devenir paralysé. En n'acceptant pas ce que Dieu est en train de faire, on peut se décourager au point de dire « Ben non, c'est trop dur, j'abandonne ». C'est pour ça que le psalmiste dit à un moment donné « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi ?» On pourrait devenir désespéré dans certaines situations si on n'a pas les yeux sur Dieu et sur Jésus. En fait, le psalmiste, il connaissait son problème et puis il avait aussi le remède parce qu'il dit un peu plus loin « Espère en Dieu », il parle de son âme, « Espère en Dieu car je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu ». Une des ruses du diable, c'est nous faire détourner nos yeux de Jésus. Mais lorsque nous sommes dans l'épreuve et dans la discipline du Seigneur, si nous gardons les yeux fixés sur le Seigneur, alors nous apprenons. Nous n'avons pas besoin de nous décourager parce que Dieu cherche, même par les choses qui nous infligent, à nous fortifier et non pas à nous affaiblir, à nous encourager et non pas à nous décourager, à nous édifier et non pas à nous démolir. Et je pense à l'apôtre Paul qui, après avoir été tellement, tellement persécuté dans sa vie, avec tellement d'épreuves au travers des églises qu'il visitait, etc., dans son ministère, il a eu une expérience extraordinaire. La Bible dit en 2 Corinthiens qu'il a été ravi au ciel et qu'il a vu le paradis. Moi, je trouve que si quelques-uns d'entre nous allaient au paradis, s'il y avait un voyage, on essaie d'aller sur Mars maintenant, s'il y avait des candidats pour aller au paradis, s'il y a une possibilité, on se présenterait. Nos vies seraient transformées. Et Paul a vécu ça. Et à un moment donné, il était éprouvé, il prie le Seigneur 3 fois, que le Seigneur lui enlève une écharde. C'était peut-être physique, peut-être quelque chose de spirituel, des gens qui s'opposaient à lui éventuellement. Et le Seigneur lui a répondu, « Ma grâce te suffit. » Ah ! Vous voulez vivre de la grâce, eh bien, acceptez le châtiment et ce que Dieu vous inflige. « Ma grâce te suffit. » Comment supportons-nous le châtiment ? Est-ce que nous regardons à la parole de Dieu ? Est-ce que nous le méprisons ? Est-ce que nous perdons courage ? Ou est-ce que nous le supportons ? Je vous lis quelque chose que j'ai lu qui est intéressant, me semble-t-il, concernant supporter le châtiment. En se soumettant au châtiment de Dieu, nous permettons à sa discipline de nous former à son image. Si nous essayons d'échapper à ou de court-circuiter ses agissements à notre égard, Dieu devra alors nous enseigner plus longtemps et utiliser des méthodes plus instructives et plus pénibles. L'école de Dieu comporte des niveaux différents et les promotions nous sont accordées seulement lorsque nous avons appris nos leçons. Aussi, quand une épreuve survient, nous devrions réaliser que Dieu traite avec nous comme avec des fils. Dans toute relation, père-fils normal, le père éduque son fils parce qu'il l'aime et veut le meilleur pour lui. De même, Dieu nous aime trop pour nous laisser évoluer à notre guise. Au lieu de nous plaindre de ce qui nous arrive, regardons à Dieu et dire « Seigneur, tu as quelque chose à m'apprendre au travers de cette épreuve. Qu'est-ce que tu veux m'apprendre ? Comment est-ce que je peux grandir ?» Jérôme, on l'appelle Saint Jérôme, il dit ceci de paradoxal. « La plus grande colère de toutes, c'est lorsque Dieu n'est plus en colère contre nous. » C'est-à-dire que, quelque part, il semblerait que Dieu nous laisse aller. Mais ce serait dangereux, cela. L'affliction suprême, c'est lorsqu'on ne se laisse ni enseigner, ni toucher par Dieu. Lorsque le Seigneur nous châtie, nous devrions dire « Merci Seigneur, tu viens encore une fois de me prouver que tu m'aimes et que je suis ton enfant. » Alors c'est notre façon de voir la vie. C'est vrai que nous n'avons plus pas trop tendance à le regarder comme ça. On préfère vivre dans le confort, dans la sécurité, dans les choses bien établies, dans les choses qui ne nous bousculent pas, qui ne nous remettent pas en cause, parce qu'en fait, on aimerait avoir chacun de nous une vie bien tranquille. Mais Dieu parfois permet des petits séismes. Oh, c'est pas tout à fait un tsunami, mais parfois, il y a des séismes dans nos vies. Je parle à un homme de Dieu que j'apprécie énormément, qui a vécu il y a 2 siècles, Charles Finet. Un homme de Dieu que Dieu a utilisé grandement dans sa vie. Et cet homme-là a eu la douleur extrême dans son ministère de perdre son épouse, qui était une compagne tellement fidèle et précieuse. Il a plaidé devant Dieu, et un certain temps, il était quand même en question, C'est un homme que Dieu a grandement utilisé pour le salut des âmes, de milliers et de milliers d'âmes. Et un jour, il a eu une discussion avec Dieu. Et Dieu lui a dit, mais arrête d'être triste ou de te chagriner. Où est ta femme aujourd'hui? Ah ben au ciel. Est-ce que ce n'est pas de loin le meilleur pour elle d'être au ciel? Alors, si vous avez perdu un être cher, je sais que c'est très délicat cela. Mais c'est vrai que par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit en nous peut faire quelque chose d'extraordinaire, nous consoler à l'endroit même où nous n'avons aucune capacité de transformer notre attitude. Dans une affliction extrême, l'Esprit de Dieu peut nous consoler au point de nous montrer d'une façon miraculeuse la situation pour la voir autrement. Comme j'ai dit déjà une fois dans un de ces messages, nous ne sommes pas responsables de tout ce qui nous arrive. Vous êtes d'accord avec moi? Mais par contre, nous sommes responsables devant Dieu de la façon avec laquelle on réagit. Tout est utile pour Dieu pour nous façonner à son image. Vous avez déjà vu un sculpteur? Moi, j'ai un copain qui, à l'école, passait son temps à dessiner pendant la classe. C'est pour vous dire. Mais c'était un grand philosophe et il réussissait bien en philo. Moi, j'étais dans le côté section scientifique, mais lui du côté philo. Et alors, quelqu'un qui philosophait, etc. Et puis un jour, ses parents avaient une carrière de granit dans le Cidobre. Il aurait pu réussir, aller là. Puis non, il a décidé, lui, de dessiner. Enfin, c'était un artiste, mais un gars assez exceptionnel. Et puis, il s'est découvert le talent de sculpteur. Et un jour, en entrant dans son village, la Crozette, dans le Cidobre, j'ai vu une immense statue en granit. Évidemment, c'est le pays du granit. Et qui avait sculpté ça, payé par la mairie? C'était mon copain, Jacques Bourges. Et je suis allé dans son atelier et j'ai vu des blocs de granit et en train de sculpter avec un burin, de créer quelque chose, une image, une statue. Ben vous savez, je me suis dit, mais c'est la même chose que Dieu fait avec toi. Parfois, on est des blocs de granit un peu durs, vous ne trouvez pas? Et puis Dieu prend le burin des épreuves pour façonner à nous l'image de Jésus-Christ. C'est merveilleux cela. Dieu veut nous façonner à l'image de son Fils. Et il prend soin d'utiliser tout ce qui contribue à notre maturation, à notre croissance dans le Seigneur, pour qu'on ressemble de plus en plus à Jésus. Comme ça, Dieu le Père va être tout à fait heureux quand il va nous voir au ciel. Il dit, ah oui, tu ressembles un peu à mon Fils, c'est bien. Vous ne croyez pas? Ça va lui faire plaisir. Mais c'est vrai que sur terre, nous avons parfois du mal à comprendre le résultat du châtiment. Et on va regarder ce deuxième point rapidement. Quels sont les fruits du châtiment? Premier point, 12, verset 9. D'ailleurs, puisque nos pères sont dans la chair, nous ont châtiés et que nous avons respecté devant nous pas plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie. Telle voie par droite un homme, c'est Dionysus, c'est la voie de la mort. Et je crois que la vie vient d'autant plus contraster avec peut-être ce qui est épreuve dans nos vies. Vous n'avez jamais eu d'épreuve, vous n'avez jamais goûté à la victoire sur l'épreuve. Le jour où on goûte à la victoire, mais on est heureux, c'est la vie, la victoire. Et c'est pareil pour bien des domaines de notre vie. Vous n'avez jamais été prisonnier de quelque chose, Dieu vous a libéré. Vous avez goûté à la joie de la liberté, à la vie de la liberté, à une vie libre. Vous avez peut-être été persécuté, vous avez peut-être été opprimé, vous avez alors goûté la joie du Seigneur, malgré la persécution. Vous avez peut-être été malade et vous avez été guéri, vous avez goûté à la vie, la guérison. Vous avez peut-être eu des problèmes différents, variés, et puis parce que la vie est faite d'épreuves, et Dieu vous a sorti de l'épreuve, et vous avez goûté à sa vie, à sa puissance. Et peut-être que même vous pourriez goûter à la puissance de la vie au sein de l'épreuve. Il y a une dame qui était proche d'un port et qui priait pour les marins qui venaient de temps en temps. Et vous savez, ces marins qui vivaient un peu éloignés de leur foyer, tout ça avait parfois des vies entachées de profonds péchés. Mais elle priait, elle était aveugle, et elle priait pour que Dieu lui amène des gens pour les amener au Seigneur. Et cette femme-là, parce que c'était une femme de prière, elle avait trouvé la grâce dans sa vie d'être joyeuse malgré son état physique d'aveugle, de cécité. Et elle a eu la joie d'amener des marins au Seigneur parce qu'ils étaient surpris de voir cette femme si joyeuse dans ces conditions. Je pense à Joni, peut-être que vous avez lu son livre, cette femme qui peint avec sa bouche, qui est chrétienne, et qui, à l'âge de 14 ans, a plongé dans une rivière et puis s'est fracassée sur un rocher qu'elle n'avait pas vu, est devenue paralysée et elle ne peut bouger que la tête. Et la seule chose qu'elle peut faire, c'est avec sa bouche, notamment peindre des tableaux. Nous avons des copies à la maison d'une femme qui a un témoignage extraordinaire et qui a un témoignage de vie malgré ses limitations physiques, parce qu'elle a découvert que la vraie vie, c'est Jésus. Avez-vous déjà découvert dans votre vie que c'est Jésus la vraie vie? Malgré tout, c'est lui qui a une puissance de vie. Et des fois, dans la discipline, par contraste, Dieu nous amène à goûter à la vie. Et c'est parfois les leçons les plus dures qui sont les plus efficaces dans nos vies. Et on découvre la vie, Jésus est la vie. Et même dans les moments les plus difficiles, qu'est-ce qui compte? Que Jésus vit. Vous n'avez jamais été désespéré de votre vie, mais ce qui compte, c'est que Jésus vit. Jésus est vivant. Il ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Un deuxième aspect du résultat de la discipline de Dieu dans notre vie, c'est notre bien. Et ça se trouve au verset 10, un peu plus loin. Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtiait pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Dieu est saint, et la Bible dit en 1 Pierre, vous serez saints, dit Dieu, car je suis saint. Excusez, la sainteté de Dieu, c'est d'être juste. La sainteté de Dieu en nous, c'est de devenir saint, comme lui-même est saint, et de se mettre à part pour Dieu, et de mettre à part les choses qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. Donc la discipline du Seigneur nous amène à la sainteté, à mettre à part nos vies pour Dieu, et à nous séparer, à mettre à part dans nos vies ce qui ne convient pas au Seigneur. Et c'est vrai que Dieu est parfait et que lui a l'art de nous amener à ce qui convient le mieux, même si parfois nous aimerions autre chose. Savez-vous que Dieu parfois dit non dans notre vie parce qu'il veut nous amener à quelque chose de meilleur et de plus saint, parce que Dieu est saint. Je pense à ce verset qui dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Et parfois on a besoin de s'arrêter et de voir Dieu dans nos vies exactement là où il est, parce que parfois nous avons des œillères, n'est-ce pas? Troisième point, verset 11, il est écrit « Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. » La justice de Dieu. La Bible dit que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Le fruit paisible de Dieu, c'est la paix de Dieu dans nos cœurs qui surpasse toute intelligence, toute connaissance. La rébellion, la colère n'accomplit rien dans notre vie. Vous n'êtes jamais rebellé. Vous savez, l'orgueil nous pousse à la colère, à l'irritation, à vouloir faire valoir nos droits, moi en premier. Et parfois, on oublie que le fruit paisible de justice est simplement la vie de Jésus en moi. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la joie. Nous ne pouvons pas établir la justice par nous-mêmes, mais Christ en nous devient justice en nous. Et c'est ça, le fruit de son esprit qui nous habite. Je vais vous lire ce qu'a dit un théologien anglais du nom de Leslie Witherhead. Il a dit « Comme tous les hommes, j'aime et je préfère les expériences ensoleillées, où la santé, le bonheur et la réussite abondent. » Alors on préfère aller en vacances, être au soleil, se reposer, que de travailler par exemple, n'est-ce pas? Le travail est parfois une épreuve. « Cependant, j'ai beaucoup plus appris concernant Dieu, concernant la vie, concernant moi-même au jour sombre de la crainte de l'échec qu'au jour ensoleillé de mon existence. Les ténèbres recèlent de véritables trésors, les ténèbres, Dieu merci, s'estompent, mais ce que l'on y apprend demeure, on le possède pour toujours. » Et il cite Fénelon qui a dit « En réalité, affirme Fénelon, les épreuves qui vous apparaissent comme une séparation entre Dieu et vous deviendront un moyen d'unité avec lui, si vous les supportez humblement, ces choses qui nous écrasent et qui blessent notre amour propre nous procurent plus de bien que toutes celles qui nous passionnent et nous enthousiasment. » Je me souviens, alors que j'avais 19 ans, une épreuve est arrivée dans ma vie et dans notre foyer, puisque ma maman est décédée. Et je me revois la voir ce soir. J'étais à Toulouse étudiant et ma maman est décédée. en voiture, elle a eu un malaise, et sa voiture s'est écrasée contre un arbre, et de la voir là, décédée. J'aurais pu me rebeller contre Dieu. Et ça a été une grâce dans ma vie, qu'au contraire, ça m'a rapproché de Dieu. Et j'ai toujours loué le Seigneur du fait que je ne me sois pas rebellé contre Dieu au décès de ma maman. Il y a parfois des épreuves qui peuvent nous rebeller. J'ai un ami qui s'est marié, il y a très longtemps, qui avait connu la drogue et toutes sortes de rébellions dans sa vie, je vais dire. Un fils loin de son père. Et un jour, il a retrouvé un équilibre après avoir goûté à la drogue, fait toutes sortes de bêtises. Il s'est rapproché d'une jeune fille qui l'a beaucoup aidé. Et il s'est marié, et j'étais à leur mariage. Et 3 mois plus tard, son épouse, qui l'avait tellement aidé à sortir de toutes ces ténèbres, il l'a trouvée décédée dans son lit un matin, morte d'un anévrisme au cerveau. 3 mois de mariage. M'a appelé. Ses parents m'ont appelé. Et j'ai eu la joie d'amener mon ami au Seigneur, parce que dans l'épreuve, il a cherché Dieu. Parfois, les épreuves nous amènent à Dieu. Ça a été mon cas, ça a été le cas de mon ami. Dieu peut transformer tout mal en bien. Il faut que je prêche un message comme ça un jour. Ça fait longtemps que je le crois. Dieu transforme tout mal en bien. Dieu a un regard sur nous. Comment réagissons-nous à la... Comment réagissons-nous à la discipline de Dieu ? Est-ce avec orgueil ? Moi, moi, moi. Est-ce que c'est avec rébellion ? Moi, moi, moi. Est-ce que c'est avec ingratitude ? Moi, moi, moi. Les Hébreux, certes, avaient de quoi se poser des questions. Ils avaient accepté le Seigneur, mais ils souffraient. Ils disaient, mais Seigneur, pourquoi tu permets cela ? Et Dieu a dit, regarde à Jésus. Jésus a vraiment souffert. Et vous n'avez pas encore, il est écrit, résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Nous n'avons pas encore versé notre sang pour le Seigneur. La discipline du Seigneur ou l'exercice du Seigneur sur nous au travers même de la persécution, nous n'avons pas encore, dit l'Épître aux Hébreux, vous n'avez pas encore vécu ce que Jésus a vécu, qui lui a donné sa vie pour vous, a versé son sang pour vous, ou ses morts martyrs. Alors même si vous êtes châtié ou discipliné par Dieu, supportez le châtiment, parce que Dieu a un plan et parce qu'il vous aime. J'aimerais... terminer en vous lisant ce que dit Charles Spurgeon, vous l'avez sous les yeux ici. « Je crains que toute la grâce que j'ai acquise au sein d'expériences faciles et agréables au cours d'heures heureuses ne dépasse pas la surface d'une petite pièce de monnaie. En revanche, le profit que j'ai tiré de mes chagrins, de mes douleurs et de mes peines est incalculable. Je vous dois tant au marteau et à l'enclume, aux feuilles et aux rabots. L'affliction constitue le plus précieux meuble de ma maison. » Peut-être que vous avez plusieurs meubles comme ça qui ont été fabriqués dans l'épreuve. Des choses dans votre cœur, dans votre vie. Eh bien, réjouissez-vous dans le Seigneur. Parce que c'est la façon avec laquelle Dieu nous fait grandir. Et nous voulons grandir dans le Seigneur. Nous voulons porter du fruit et du fruit qui demeure. Aux Hébreux, l'Épître aux Hébreux, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Vous vous sentez éprouvé, mais... il y a d'autres qui ont tellement plus souffert que vous. Et Jésus a souffert, séparé du Père, en versant son sang pour vous. Alors notre défi, c'est acceptons-nous le châtiment de Dieu dans notre vie. Peut-être qu'on va partir un peu transformé ce matin et qu'on va considérer nos vies avec le poids de la mesure de Jésus. N'oublions pas que Dieu est amour, que Dieu nous aime d'un amour parfait. Et ce qu'il permet dans notre vie, c'est pour notre bien. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Prions, s'il vous plaît. Notre Père céleste, tu nous as placés encore sur un terrain parfois difficile à comprendre pour nous, tes enfants. Mais nous voulons être ouverts. Nous voulons avoir des yeux ouverts pour voir ce que tu as à nous montrer. Nous voulons avoir des oreilles ouvertes pour entendre ce que tu as à nous dire. Nous voulons avoir des cœurs ouverts pour discerner tes plans. Et nous humilier pour grandir, même au travers du burin des épreuves, afin que tu puisses nous sculpter à la ressemblance de Jésus. Nous l'acceptons, nous supportons, et nous voulons encore plus découvrir l'amour que tu as pour nous, au travers de ta main paternelle et bienfaisante. Nous te donnons toute la gloire, Seigneur Jésus, de ce que tu fais dans nos vies. Et merci, Jésus, d'être mort à la croix, d'avoir subi tant de souffrances pour nous sauver, par amour pour nous. Tu as accepté l'obéissance par les choses que tu as souffertes jusqu'à la mort de la croix. Tu t'es soumis à Dieu ton Père jusqu'au bout, jusqu'à l'obéissance de la croix. Alors, Seigneur Jésus, nous t'implorons, fais-nous la grâce de vivre ainsi et de travailler, de vivre pour toi en Christ jusqu'au bout pour toi. Amen.